Radio Starbucks.
Morning edition from NPR News.
Un santinho de la house.
Radio Rosana Piperino.
Que se reproduce aquí en la radio.
France Inter. Le 18-20.
Les paysans souffrent énormément ici. À cause du sel, rien ne poussera cette année. Aucune production.
À Bassora, la ville rebelle d'Irak, depuis toujours, on manifeste depuis 4 mois, on le paye parfois de sa vie. Pour ces motifs-là, une eau contaminée qui empoisonne, des conditions de vie épouvantables dans une ville qui devrait vivre largement du pétrole. Ce sera l'escale reportage d'un jour dans le monde ce soir, sous les radars. Et Amélie Perrier, vous l'avez entendu, au Burundi, en Égypte, en Russie notamment. 18h50, la chronique pour tous de Julia Foyce, avec notamment des filles en rose et des garçons en bleu au Brésil. Et c'est vrai que comme ça au moins c'est plus clair. 18h55, le monde à l'envers de Jean Marfour, qui se demande si l'Europe n'est pas le dindon de la farce de cette nouvelle lune de entre la Chine et les États-Unis. Mais avant, nous allons en Espagne. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans
l'Espagne qui avait l'air épargnée par une extrême droite réunie en partie, structurée en tout cas, et élue. Elle ne l'est plus épargnée. Il y a Vox désormais qui a créé la surprise au régional du mois de décembre dernier et commence à montrer aussi ce qu'elle a dans le ventre. Une manière de nous aider à comprendre d'ailleurs que les partis d'extrême droite en Europe d'un pays à l'autre sont différents et poussent aussi sur des ruines qui sont des ruines différentes. Bonjour Jean-Jacques Courliansky.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur à l'IRIS sur les questions ibériques notamment. Qu'est-ce qui s'est passé en Espagne qui fait que l'extrême droite, en tant que parti structuré avec des élus, etc., a mis autant de temps à trouver une ouverture politique et sa place? Est-ce que c'est tout simplement, j'y mets des guillemets, le passé historique qui fait que jusque-là, c'était impossible, ça le devient aujourd'hui?
Oui, tout à fait. L'Espagne, comme le Portugal d'ailleurs, a été épargnée pendant plusieurs années par la présence ou l'existence de partis d'extrême droite. Bon, il y avait eu à la mort du dictateur Franco, pendant quelques années, une petite force d'extrême droite traditionnaliste, Fuerza Nueva, qui avait réussi à avoir d'ailleurs un député au Congrès des députés, puis elle avait disparu. Et l'Espagne était entrée dans une phase de transition démocratique qui, avec une mémoire d'un passé de dictature qui, jusqu'ici, avait empêché l'émergence d'un parti d'extrême droite. D'une certaine façon, l'arrivée de Vox dans le panel des partis politiques ouverts au choix des électeurs depuis les élections en Andalousie, le 2 décembre dernier, c'est à la fois le signe, effectivement, que l'Espagne se normalise.
Mais c'est terrible à dire comme ça, mais ça veut dire ça aussi.
Voilà, et c'est aussi peut-être l'événement qui marque la fin de la transition démocratique, le point final à une transition, le changement de génération et donc une autre approche de la vie politique.
Parce que c'est un parti qui est très très jeune, hein, Vox, qui date de 2014 seulement, qui se crée sur quoi en fait à ce moment-là?
À l'origine, en 2013 puis 2014 pour la présentation en société, ce sont des exclus ou des gens en délicatesse avec le Parti Populaire, qui est le grand
parti de droite.
De droite et de centre-droit en Espagne. Donc ce sont des responsables, des cadres moyens, essentiellement, ce qui n'est pas anodin, ce qui est une des caractéristiques de ce parti, originaire de Catalogne et du Pays Basque, donc aux prises et face à des mouvements séparatistes ou indépendantistes, et qui se sont trouvés à un moment ou à un autre en désaccord avec les structures dirigeantes de leur parti.
Alors, avant de revenir effectivement dans ces régions-là, parce que effectivement c'est intéressant, est-ce que l'Espagne est tombée de sa chaise quand même le 2 décembre dernier, ou est-ce que en les voyant monter et arriver, on savait que ça allait éclore à un moment ou à un autre au fil d'une élection?
Tout le monde a été surpris, hein, du Parti Socialiste espagnol, la fête de la gauche, de Podemos, jusqu'au Parti Populaire et au Parti jusqu'ici centriste de Ciudadanos. Rien ne laissait espérer ou attendre ce résultat. Enfin, Vox s'était présenté effectivement aux élections précédentes, générales, et avait fait moins de 2% des voix. Donc passer tout d'un coup de 2 à 11%, donc ça crée un choc. Il y avait eu un petit signal d'alerte au mois d'octobre, le 7 octobre, Vox avait organisé à Madrid un grand meeting qui avait réuni plusieurs milliers de personnes, ce qui avait attiré l'attention des médias, qui s'était posé la question et de l'opinion des partis politiques. Est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau, est-ce que c'est épisodique ou est-ce que ça annonce quelque chose de plus profond? Mais effectivement, ça annonçait quelque chose de plus profond qui n'a été perçu ni par les partis politiques, ni par les médias, ni non plus par les instituts de sondage.
Alors vous l'avez dit, alors les instituts de sondage, de ce point de vue-là, effectivement, on les partage finalement. C'est peut-être parce qu'on ne dit pas forcément les choses quand on est à l'éclosion peut-être, d'un parti de ce genre-là. Ouais. Vous l'avez dit, il y a une naissance qui vient de Catalogne, qui vient du Pays Basque, qui vient de régions à très forte identité régionale et régionaliste. Et c'est en Andalousie qu'on trouve ce résultat de 11%. L'Andalousie qui est un bastion socialiste, qui est même un réservoir socialiste. Qu'est-ce que ça dit quand même aussi pour tous les autres parti et pour le découpage politique de l'Espagne? Est-ce que le séisme est de cette ampleur-là, en fait?
Bon, alors, l'Andalousie, c'est tout à fait le hasard. C'est le calendrier électoral. Mmh. Il aurait pu avoir des élections ailleurs. Est-ce qu'elles auraient donné le même résultat?
C'était le sens de ma question, effectivement. Est-ce que c'est l'opportunité de la première élection, en
oui,
fait?
Oui, c'est l'opportunité de la première élection dans un contexte national espagnol qui explique ce résultat. Alors, effectivement, il y a également des facteurs locaux.
Bon, facteurs d'immigration.
Le fait qu'il y a l'usure du pouvoir. Le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol gère l'Andalousie depuis 1982. Donc il y a une volonté des partis d'opposition ou de l'opinion opposée aux socialistes en Andalousie de changer, d'avoir une alternance, donc qui a été très forte. Il y a également le problème des autonomies, puisque dans la rivalité, la Catalogne comme le Pays Basque sont des régions riches, où il y a des sentiments, quelquefois, de la part des indépendantistes et des régionalistes ou des nationalistes anti-andalous. Il ne faut pas oublier que l'émigration en Espagne a été d'abord une émigration interne et qu'il y a beaucoup d'andalous en Catalogne. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, l'un des premiers fondateurs de ce parti politique, de Vox, venait de Catalogne. Donc, c'est un élément fort qui explique pourquoi, dans les revendications de Vox, au premier point qui est signalé, c'est mettre un terme à la politique des autonomies, une seule politique, la même pour toute l'Espagne, avec un seul drapeau. Alors effectivement, ensuite, mais ça c'est l'évolution des événements qui a conduit à cette émergence, mais qu'il faut relativiser, qui est moins forte qu'en France, par exemple, ou en Allemagne, du phénomène migratoire. Donc depuis quelques mois, les migrants...
Et encore que les routes reviennent vers Gibraltar,
vers l'Andalousie, et qui est couplé d'ailleurs avec quelque chose qui touche à la sensibilité andalouse, un sentiment qui ressurgit de temps en temps, anti-musulmans, anti-arabes, qui viennent de l'histoire. Et donc on trouve dans le programme de Vox effectivement quelques éléments anti-migration et d'autres éléments parallèles, mais qui recoupent celui de la défense de la nation espagnole, de s'affirmer face aux musulmans, face au monde arabe.
Jean-Jacques Olensky, on a bien compris effectivement qu'il pouvait y avoir une spécificité andalouse, mais aussi que l'occasion a fait le larron, pardon, pour cette élection à ce moment-là. Santiago Abascal, qui est le leader de Vox, dit les Andalous ont montré le chemin aux Espagnols. Est-ce que, selon vous, il a raison? Ça veut dire que cette photo de l'Andalousie, au fond, c'est aussi la photo de l'Espagne. Si d'aventure il y avait des élections anticipées dès 2019, ou même pour les Européennes, de toute façon, du mois de mai, est-ce qu'on se dit ça? La photo de l'Espagne, la voilà. En fait, c'est l'Andalousie qui l'a montré.
Bon, c'est l'ambition du leader de Vox et de son parti politique. Il se trouve que les élections, le calendrier imposé, ce rendez-vous électoral en Andalousie, il y a des élections européennes en Espagne comme dans le reste des pays membres de l'Union au mois de mai. Et donc, effectivement, l'espoir de Vox, c'est dans cette élection où la proportionnalité est importante, il va obtenir un résultat qui permettrait d'étendre le résultat d'Andalousie au reste de l'Espagne. Cela dit, il y a eu un sondage postérieur aux élections en Andalousie qui quand même permet de relativiser les choses, à supposer évidemment que les instituts de sondage, encore une fois, ne se trompent pas. Il y a une petite poussée au niveau national espagnol de Vox, qui double ses intentions de vote, mais ça reste encore limité à 3,7% des intentions de vote, 28-29% pour le PSOE, 19% pour le Parti Populaire. 17% pour Ciudadanos et 14% pour Podemos. Donc, c'est vrai qu'il y a une poussée de Vox, mais qui n'est pas une poussée de nature à leur permettre, si les instituts de sondage ne se trompent pas, d'avoir un résultat significatif aux élections européennes du mois de mai.
Est-ce que cette extrême droite est une concurrence pour le Parti Populaire, ou est-ce que c'est un réservoir dont il se fera ami très très vite? Et dans le même ordre d'idées, vous avez cité Ciudadanos, qui est le parti de centre-droit plutôt. Est-ce qu'à l'inverse, le Parti Populaire risque de se séparer de ce centre-droit qui est Ciudadanos, qui lui pour l'instant refuse même de se faire prendre en photo avec le leader de l'extrême droite?
Bon, ça c'est l'ambition du leader de Vox, c'est de négocier.
Mais pour l'instant, qu'est-ce qu'on dit au PP par exemple? On dit jamais, nous jamais, comme on le disait en France au moment de l'éclosion du Front National, ou pas?
Non, je veux dire que la tentation est très forte en Andalousie, et donc au Parti Populaire comme à Ciudadanos, il faut rappeler d'ailleurs que Ciudadanos est né en Catalogne, c'est un peu le même phénomène. Et donc dans les analyses faites par certains sociologues de politique de l'Espagne, le constat qu'ils ont fait, c'est que l'électorat de Vox vient à plus de 50% du Parti Populaire et 25% de Ciudadanos. Donc il n'y a pas, à la différence d'autres partis d'extrême droite, notamment le Front National en France, d'électeurs venant de la gauche. C'est vraiment un électorat qui est pris sur l'électorat de droite et de centre-droit des partis espagnols.
Et qu'est-ce qu'on dit de son profil, en fait, effectivement? Est-ce qu'on est proche, quand même, en termes d'idées? On a entendu parler, effectivement, d'immigration, les termes d'une Espagne unie, ça c'est quelque chose qui est très spécifique, évidemment, à l'Espagne, mais est-ce qu'on est proche de quelque chose qui ressemblerait à notre Rassemblement national? Est-ce qu'il y a quand même des relents d'un vieux fascisme franquiste là-dedans, ou pas?
Apparemment, non. C'est un mouvement. Donc, comme je vous le disais, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas d'électorat ou très peu venant de la gauche, à la différence de ce qu'on constate en France, par exemple, dans l'extrême droite française. C'est un mouvement qui ne conteste pas le système démocratique. Il souhaite arriver au pouvoir par la voie électorale. Et sa priorité, alors là, c'est effectivement une thématique qu'on trouve chez les nostalgiques du franquisme, mais pas seulement, c'est l'affirmation de la souveraineté espagnole, le drapeau, la nation, l'orgueil national, la défense de la langue espagnole, ce sont tous ces thèmes-là qui sont le contre-reflet de ce qui se passe en Catalogne. C'est un mouvement qui est né de la part d'Espagnols qui s'affichent nationalistes contre la montée des indépendantistes et des séparatistes. Donc en cela, il est très particulier, très espagnol. Donc il y a des éléments fiscaux. Donc on peut retrouver dans les autres partis de droite, diminution des impôts, liberté économique, baisse de la TVA, etc. Enfin, c'est ça, ces éléments-là, on peut les retrouver dans d'autres partis d'extrême droite européenne. Une méfiance envers l'Europe également.
Dans ce qu'ils ont dit récemment, ils ont parlé de revenir sur un certain nombre de lois féministes qu'ils estiment trop favorables aux femmes. Est-ce que c'est vraiment sérieux? Est-ce que c'est une forme de provocation aussi, y compris d'ailleurs vis-à-vis des...
Non, c'est dans leur programme. Il y a la remise en cause de toutes les lois qui ont été adoptées de façon consensuelle, d'ailleurs, entre les socialistes, les partis populaires, la gauche, le centre, contre les violences faites aux femmes, l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Il y a également la remise en cause de la loi de mémoire historique en vue de réhabiliter les victimes du franquisme. Donc, c'est
pour ça que vous
parlez
du relent de fascisme aussi. On est toujours, on marche sur le long d'une falaise quand même.
Le fascisme, c'est... Bon, non, enfin...
De franquisme, on va dire.
Des éléments qui appartiennent à l'extrême droite traditionnelle en Espagne. Il n'y a pas l'idée de créer un homme nouveau, d'avoir un parti militarisé, comme dans le fascisme, notamment italien, dans l'entre-deux-guerres. Mais il y a des éléments idéologiques qui sont fondamentalement ceux de l'extrême droite, qu'ils essaient, qu'ils souhaitent en utilisant comme instrument la crise catalane qui bouleverse la vie espagnole depuis une dizaine d'années en vue d'obtenir de meilleurs résultats.
À suivre en tout cas, et notamment donc en même temps que nous tous en Europe au moment des élections européennes, ce parti Vox donc qui fait son apparition, on va dire qui a fait son apparition en Espagne désormais. Jean-Jacques Ourlianski, merci mille fois.
Je vous en prie.
Merci de votre passage dans Un jour dans le monde.
France Inter. Fabienne Saint-Hès. Un jour dans le monde.
La suite ce soir, ça se passe à Bassora en Irak, qui manifeste depuis 4 mois et le pain est très cher. Vous saurez pourquoi dans un instant, sous les radars, et Amélie Perry avec Handicap International qui quitte le Burundi avec la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte, avec un coming out heureux en foot et en Allemagne. La chronique pour tous de Julia Foyce. Bonsoir Julia.
Bonsoir Fabienne.
Un homme sur deux étant une femme, Julia, comme des fois on confond, mettons donc les femmes en rose et les hommes en bleu, comme
voilà.
Ça ce sera simple.
Et les vaches seront bien gardées, les enfants aussi, tant qu'à faire. Ça se passe au Brésil, je vous raconte.
Allez, tout à l'heure, le monde à l'envers. Jean-Marc Four, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Les Chinois, les Américains sont en train de régler leur guerre commerciale et nous, ben, on sera la victime.
Mais oui, ils se parlent, c'est cool, non ? Sauf que c'est nous qui allons payer les pots cassés.
Allez, le tour de la planète continue, on se retrouve à 18h55, Jean-Marc. Le tour passe par Omaha, c'est dans le Nebraska. Pigeon John de Bamb.
Drugs and my dickies and I put it on black. Banging Sinatra in a flat Cadillac. My old lady leaning out the whole window. Everybody looking when we walking slow. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. Show, but three to be a legend, even if I'm old. I ain't chasing nothing, you gon' have to catch me. And if you wanna taste, you gon' have to pay a fee. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. All my mother ring walls and my little scarecrows. When they hear my record, well, they all hit the floor. Baby's like a pose, come up in the front row. The homies in the back get the house to blow. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. Won't you clap your hands? White folks, do it on time if you can. Sounds good, now here's the plan. Let's all sing together like we in the same band. I'm the bomb and about to blow up. 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 Now we gonna reach another whole new level. Grabbing the light on the run from the devil. Been downtown for too long. I feel the sun rising on the thin line. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and I'm about to blow up. Kill them all.
Il s'appelle Pigeon John et ça me rassure qu'autour de cette table, personne ne sache qui est cette personne. En même temps, c'était très sympa. Et ça se passe sur France Inter, sous les radars. Et Amélie Perrier, c'est maintenant.
France Inter.
Good evening and welcome.
Gerasmachio Capillon.
Un jour dans le monde.
Intervencia extra.
Les jeunes sont plus qu'ils étaient. Une ONG.
Ça me regarde que vous.
Voilà. Une ONG, Amélie, prend la décision de quitter le Burundi malgré les besoins du pays.
Oui, c'est Handicap International, présent au Burundi depuis 1992. Eh bien, Handicap International renonce à ses activités là-bas. Jean-Pierre Delomier, le directeur de l'action humanitaire, explique pourquoi nos confrères de RFI.
L'un des documents requis par les autorités gouvernementales était de pouvoir procéder au fichage ethnique de notre personnel. Alors même que l'appartenance ethnique ne figure pas sur leur propre papier d'identité. L'obligation de donner l'origine ethnique de nos personnels est très clairement une ligne rouge pour Handicap International.
Alors le gouvernement burundais a demandé un inventaire ethnique pour parvenir à 60% de Hutus, 40% de Tutsis. Ce voisin du Rwanda a connu la même guerre ethnique et le génocide dans les années 90. Je vous conseille le livre Petit Pays de Gaël Faye. Ces équilibres ethniques inscrits dans les accords d'Arusha pour mettre fin à la guerre visait à rééquilibrer les pouvoirs dans les institutions, mais cet équilibre au niveau de la société civile n'a pas de sens selon des ONG, dont Avocats sans frontières, qui a également fermé son bureau le mois dernier au Burundi.
C'est une compétition attendue par tout un continent.
La Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2019, elle aura lieu en Égypte. Le pays a 6 mois pour se préparer. Le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, a expliqué son choix pour l'Égypte au détriment de l'autre candidat, l'Afrique du Sud, au micro donc toujours de nos confrères de RFI.
L'un des documents requis par les autorités gouvernementales était de pouvoir procéder au fichage ethnique de notre personnel. Alors même que l'appartenance ethnique ne figure
pas... Voilà, c'est pas ça qu'on voulait entendre, en vrai.
On l'a déjà entendu, bah oui. Ce son-là. Non, non, c'est l'organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations, je ne sais pas si on l'a. La CAN, si. Voilà, on va l'écouter, Ahmad Ahmad.
C'est par rapport à l'engagement du gouvernement, parce que l'autre dossier, il n'y en a pas d'engagement du gouvernement. Il y a la garantie tout d'abord, il n'y a pas cette garantie, mais en plus, il n'y a pas l'engagement énorme du gouvernement. Tandis que l'Égypte, il y a encore l'engagement du Premier ministre, pas seulement du ministre des Sports, mais par-dessus tout, il y a aussi le budget qui a été déjà alloué.
Alors cette décision, c'est la fin d'un feuilleton de plusieurs mois. Au départ, la CAN avait été attribuée au Cameroun. Mais la CAF lui a retiré la compétition en novembre dernier à cause des retards dans la préparation de ses infrastructures et du climat politique instable. La rébellion anglophone à l'ouest notamment. Le Cameroun s'est insurgé contre cette décision, a accusé le Maroc d'avoir intrigué pour lui voler sa compétition. Le Maroc, un temps envisagé comme solution de secours, n'a finalement pas posé sa candidature, à la surprise générale. Certainement pour ne pas à se fâcher avec le Cameroun. L'Égypte hérite donc de la compétition. Déjà pays hôte en 2006, elle dispose de grands stades et de nombreux hôtels pour accueillir les spectateurs. Alors, parmi les craintes quand même, la violence dans ces stades, le risque terroriste également, et puis les températures caniculaires. La CAN se déroulera du 15 juin au 13 juillet.
Allez, toujours en sport ou presque, il voulait seulement skier, mais il a été reconnu coupable d'espionnage.
Un skieur de Sibérie, il a acheté sur le net un masque équipé d'un appareil photo intégré. Un gadget à 25 euros trouvé sur un site chinois. L'objet a été confisqué à la douane. Un équipement banni en Russie. Le skieur malheureux condamné a payé une amende de près de 200 euros. En fait, les condamnations pour trafic illicite de gadgets d'espionnage ont été multipliées par 5 en Russie entre 2011 et 2017. On a vu aussi le cas d'un agriculteur russe condamné parce qu'il avait acheté en Chine également des trackers GPS pour son bétail.
Ouais. Allez, rien à voir. Et une info pour finir en beauté un petit peu. Un coming out heureux, celui d'un footballeur.
Un footballeur allemand, Thomas Hitzlsperger. Il y a 5 ans, il brisait un tabou. Dans une interview au magazine Die Zeit, il révélait son homosexualité.
Je pense qu'il est désormais nécessaire de parler de mon expérience en tant qu'homosexuel dans le monde du foot. C'est seulement ces dernières années que j'ai réalisé que je voulais vivre avec un homme, que j'étais gay. J'espère que ce que je fais va en encourager d'autres, parce qu'ils voient qu'on peut être un pro, jouer au plus haut niveau et être gay.
Alors à l'époque, il a 31 ans, il vient de prendre sa retraite sportive depuis quelques mois. 5 ans plus tard, il revient dans le Spiegel et selon lui, le sport professionnel est devenu plus tolérant. La diversité sexuelle n'est plus aussi tabou, dit-il. Il parle de supporters de foot beaucoup plus éclairés, beaucoup plus ouverts. C'est pas tout à fait le point de vue du président de la Bundesliga. Hein. Oui, Peter Fischer, lui, il croit que c'est pas toujours simple pour des sportifs encore en activité, même s'il a honte de cette réalité sociale. En tout cas, aujourd'hui, Hitzlsperger, lui, il peut faire entendre sa voix. Il est au conseil d'administration du club de Stuttgart. Et puis, il est aussi à la télé. Il est consultant sur les matchs internationaux pour l'ARD, l'audiovisuel public allemand.
Allez, merci beaucoup. Amélie Perrier, sous les radars, c'est tous les jours dans Un jour dans le monde.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem,
Pékin, le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
San Paolo,
Beyrouth, France Inter.
C'est à Bassora, dans le sud de l'Irak, que nous emmène l'escale reportage d'Un jour dans le monde ce soir. Ça vous a probablement échappé, mais ça fait 4 mois que les habitants de la deuxième ville du pays manifestent. Ils le payent très cher. 21 militants tués, des centaines de blessés par balle depuis le mois de juillet. La région connaît une crise économique et sanitaire sans précédent. Il n'y a plus d'eau potable, des coupures d'électricité tout le temps, un taux de pauvreté 2 fois supérieur au reste du pays, des services publics quasi inexistants, une situation qui est incompréhensible puisque la moitié des recettes publiques de l'Irak doivent normalement provenir directement des puits de pétrole de la région. Bonsoir Noé Pignède.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Noé, ce bastion chiite de Bassora est depuis toujours un berceau de la contestation contre le pouvoir central. Depuis la prise de pouvoir de Saddam Hussein en 79, les gouvernements successifs asphyxient la ville sciemment et la privent de sa rente pétrolière. Et cet été, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ça a été une goutte de boue. L'eau qui sort des robinets est marron, contaminée, 100 000 hospitalisations et des terrains agricoles dévastés.
Regardez ici, l'année dernière, il y avait plein de légumes bien verts, du fourrage pour mes bêtes, des fruits. Ça me rapportait entre 15 et 20 000 euros par an. Je vendais mes dattes, mes pommes, mais cette année, j'ai tout perdu. Je n'ai plus rien.
Abbas Abdel Saleh a 65 ans. Cet agriculteur a grandi ici, c'est la terre de ses ancêtres, une terre aujourd'hui détruite, asséchée et craquelée par le sel. Nous sommes au bord du Chatt al-Arab, à la confluence du Tigre et de l'Euphrate. Ce fleuve se jette dans le golfe Persique, à une centaine de kilomètres d'ici.
Mon père avant moi a cultivé cette terre jusqu'à sa mort à 90 ans. Mais moi, maintenant, je ne peux plus travailler. Les barrages turcs et syriens nous coupent l'eau. À l'époque de Saddam Hussein, c'était ouvert. Mais maintenant, ils ferment. Et du coup, l'eau salée du Golfe remonte dans le fleuve. Vous devez vous demander comment je fais pour survivre. Eh bien, je vends mes moutons. J'en ai déjà vendu 7, il m'en reste encore 23, mais après...
Donc vous n'avez plus de revenus et vous n'avez aucune aide de l'État?
Non, le gouvernement ne nous donne rien. Nous avons écrit des dizaines de lettres pour demander de l'aide, mais rien ne vient. Que ce soit le gouvernement local ou le ministère à Bagdad, ils se fichent des gens comme nous. J'ai 3 enfants à nourrir, je ne peux rien faire, juste vendre mes animaux.
Des animaux que ce paysan ne peut plus abreuver avec l'eau de la rivière, trop toxique et surtout trop salée. Alors 3 fois par semaine, il dépense une 20aine d'euros dans des bouteilles d'eau pour remplir ses abreuvoirs.
Les paysans souffrent énormément ici. C'est terrible, regardez. Ils sont démunis.
Abdelkarim Jessem Chebib, fermier et président du syndicat agricole du district de Chatt al-Arab.
À cause du sel, rien ne poussera cette année, aucune production. Ils demandent juste un peu d'aide, pas grand-chose, simplement de quoi vivre, mais personne ne les écoute. Il n'y a qu'une seule solution pour régler ce problème, il faut de l'eau douce. Sinon, les fermiers partiront les uns après les autres. Nos seuls revenus viennent de cette terre. Si elle n'est plus cultivable, à quoi bon rester ici ?
Mais vous croyez sincèrement que l'eau douce, elle va revenir un jour ici ?
Je n'en sais rien, c'est entre les mains de Dieu. Mais s'ils ouvrent les barrages en Syrie et en Turquie, ça ira peut-être mieux. Enfin, quand on voit ces terrains ravagés par le sel, on se dit que c'est foutu. Que même si, grâce à Dieu, l'eau revient, rien ne repoussera. On aura quoi ? 10% d'une récolte normale ? Maximum. Non, pour être franc avec vous, je pense qu'il n'y a pas vraiment de solution. La plupart de ceux qui vivaient là sont déjà partis chercher du travail en ville. À quoi bon rester s'il n'y a plus d'agriculture ? Nous sommes très peu à vivre encore ici aujourd'hui, mais je pense que tout le monde finira par partir.
Entre les périodes de sécheresse de plus en plus longues dans la région et l'augmentation de la consommation d'eau des villes irakiennes, turques et syriennes en amont, la situation des paysans de Bassora risque bien de s'empirer. Cette année, 4000 d'entre eux ont déjà quitté leurs terres. Ali Salem est ingénieur agronome auprès du gouvernement local de Bassora.
Le problème principal, c'est le partage de l'eau. Nous sommes à la fin du fleuve. Le Tigre et le Frat traversent de nombreuses provinces avant la nôtre. Et elles nous volent notre part de ressources hydriques. Il faut que le gouvernement de Bagdad organise un partage équitable de l'eau pour régler ce problème. Mais ça ne suffira pas à régler la crise agricole. Les compagnies pétrolières sont toutes puissantes ici. Elles peuvent exproprier n'importe quel paysan de leur terre. S'il y a du pétrole chez vous, elles réquisitionnent votre parcelle et vous devez partir. C'est la loi.
Résultat, les champs laissent progressivement place aux puits de pétrole et selon les Nations Unies, 25 000 hectares de terres agricoles disparaissent chaque année dans le sud de l'Irak. Une catastrophe écologique que personne ne cherche réellement à enrayer. Le pays prévoit même d'augmenter sa production d'hydrocarbures de 20% dans les 4 ans. Des pétrodollars dont les Irakiens ne devraient évidemment pas voir la couleur dans le 10e pays le plus corrompu du monde.
Noé Pignéd, en Irak pour le reportage et pour Un jour dans le monde. Merci beaucoup. Lélia McCalla sur France Inter de Capitalist Blues. C'est la nouvelle playlist de France Inter. Elle est américaine, la voici.
Stakes get higher. I've got the capitalist blues. When I give everything, I won't have much more to lose. I am swimming in an ocean of sharks. They are telling me how I'm gonna make my little mark.
Ce qu'on entend, Leila McCalla de Capitalist Blues sur France Inter.
France Inter.
So I want all the girls that a new day is on the horizon.
Fabienne Sintès.
You're all scared of girls.
Un jour dans le monde.
Me too.
Elle est là pour nous rappeler qu'un homme sur deux est une femme. Elle refait les comptes chaque semaine. Julia Foyce, à chaque fois ça tombe juste. Des nouvelles des hommes et des femmes dans le monde, les bonnes comme les mauvaises. On commence par la punk de la semaine, Julia.
Elle s'appelle Damaris Alves, elle est brésilienne et elle a même pas peur d'être par exemple l'une des deux seules femmes dans le gouvernement Bolsonaro où elle est ministre du droit des femmes. Ah non, pardon, l'intitulé du portefeuille a changé avec l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. On dit maintenant ministre de la famille, de la femme et des droits de l'homme, comme ça c'est plus clair. Femme de parole et de conviction, pasteur et avocate, elle sera prêchée, plaidée pour ces causes qui lui tiennent à cœur. Et par exemple, l'IVG, dépassée, elle est contre. Et elle le répète, celle qui se dit à la fois profondément laïque et terriblement chrétienne, si,
c'est bien compliqué,
n'a pas peur, au fond, de propulser le pays dans un monde nouveau. Écoutez, c'était le jour de son intronisation vendredi dernier.
uma nova era no Brasil. Menino veste azul e menina veste rosa.
Le Brésil entre dans une ère nouvelle. Désormais, les garçons s'habillent en bleu et les filles en rose. Waouh ! Quand je vous dis qu'elle est punk, Fabienne, punk, mais un petit peu en carton quand même. Hein. Devant le tollé provoqué sur les réseaux sociaux par cette déclaration, elle a immédiatement reculé. Les garçons et les filles ont bien le droit de s'habiller comme ils l'entendent, a-t-elle assuré. Merci beaucoup, Damarès. C'était une métaphore de la théorie du genre, a-t-elle encore précisé. Une métaphore. Eh ben voilà ! On a tous dû manquer un petit peu de poésie, tiens. Bref, au cas où certains s'inquiéteraient, elle conclut, les droits des personnes LGBT seront respectés. Et la prochaine fois, promis, elle nous présente son meilleur ami homosexuel habillé couleur arc-en-ciel.
Allez, on continue avec le condamné de la semaine.
Au moment où on se parle, il doit certainement griffonner des petits bâtonnets sur le mur de sa cellule avec ses ongles et jusqu'au 101, 2... Trois, chaque jour qui passe le rapprochant de son pire cauchemar. Il s'appelle Baby Echecopar. Et c'est une star de la radio argentine. El Angel del Mediodía, l'ange de midi, c'est lui. À l'antenne, ça donne ça.
Buenos días, Argentina, América. Buenos días, al mundo.
Mais salut l'Argentine, salut le monde, mais oui, vous devriez tenter un truc un peu comme ça quand vous prenez l'antenne, Fabienne. L'ange de midi, c'est un talk show extrêmement populaire, mais c'est aussi des attaques récurrentes contre toutes ces féminazies que Baby Echecopar aborde, ces féministes dégoûtantes que l'animateur vomit jour après jour, qu'il vomissait plutôt, car ses remugles ont fini par polluer jusqu'aux oreilles de la justice argentine. Juste avant la fin de la saison radiophonique, peu de temps avant Noël, hop, c'est cadeau, il a été condamné pour discrimination et violence de genre, condamné à offrir, à compter de la rentrée prévue en mars, 10 minutes de temps d'antenne par semaine à des féministes sans avoir le droit ni de les interrompre ni de les critiquer avant, pendant ou après leur intervention, et ce pendant 5 mois. Allez, baby, passe de bonnes vacances.
Magnifique condamnation. Le mot de la semaine, Julien.
Jenu Harry, janvier poilu, si vous voulez. Cessez de vous épiler pendant les 4 semaines qui viennent. Prenez-vous en photo et celle maillot mollet photographiée, partagée sur les réseaux sociaux. Si, si, Fabienne, c'est le challenge. Le défi lancé aux internautes par une étudiante britannique de 21 ans, Laura Jackson. Sur un post Instagram, elle raconte comment, pour une performance théâtrale, elle a dû laisser sa pilosité naturelle repousser. Elle dit, le malaise qui fut le sien, d'abord, vite évanoui, cela dit, cette sensation de liberté, ensuite, qui, elle, ne l'a pas quittée depuis. Les interrogations, le sceptique, voir les reproches de son entourage qui n'ont fait que la conforter dans son idée. Ce modèle de peau lisse est une injonction de plus à laquelle les femmes sont soumises, un carcan, voire un corset dont il serait temps de se dégager. Oublier la cire et libérer la femme à la poubelle, le rasoir et que le corps s'éveille au rebut, la pince, que la peau respire et que le poil exulte. Je suis d'accord. Vous commencez et je vous regarde, ok?
C'est ça, voilà, c'est bien ce que je vous disais aussi. Julia Foyce, merci beaucoup. Et vous revenez la semaine prochaine?
Oh ben je sais pas, ça dépend de mes
avec
poils.
Avec ou sans, voilà, c'est exactement ce que j'allais vous demander. Allez.
Le 18-20, Fabienne Synthès sur France Inter.
Le monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, aujourd'hui, on sait que les négociations commerciales à Pékin, entre Pékin et Washington, sont en cours. La guerre des tarifs douaniers déclenchée par Donald Trump est au cœur de discussions au sommet entre Chinois, Américains d'une part, Européens, Américains d'autre part. Et à ce jeu-là, l'Europe pourrait bien être le dindon de la farce. C'est votre monde à l'envers de ce soir.
Et on commence par le tweet du jour de Donald Trump. Le voici, je vous le montre ici en studio. Vous le trouverez sur le site de France Inter au saut du lit. Ce matin, comme d'hab, le patron de la Maison Blanche a tweeté, c'est très court. Talks with China are going very well. Pas besoin d'être expert dans la langue de Shakespeare pour traduire. Les discussions avec la Chine se passent très bien, je vous l'accorde. Il y a plus fiable comme source d'information qu'un tweet de Donald Trump. Mais en l'occurrence, ça nous dit quand même quelque chose. Depuis hier, les meilleurs experts du commerce de l'administration américaine sont à Pékin pour négocier avec leurs homologues chinois. Ça vous paraît austère comme sujet, Salem, et ne nous y trompons pas, c'est là que se joue l'avenir du monde. Donald Trump et Xi Jinping ont décrété une trêve dans leur guerre commerciale jusqu'au 1er mars. Les deux délégations cherche donc un accord avant la date limite. Et à Pékin, ça bosse dur. Plusieurs groupes de travail sur les accords commerciaux bilatéraux, sur les règles respectives d'accès au marché, sur le sujet très sensible de la propriété intellectuelle. Et signe de bonne volonté, ce matin, Pékin a donné son feu vert à l'autorisation en Chine de colza et de soja transgénique américain. Il est possible que ces négociations aboutissent parce que les deux parties ont beaucoup à perdre à se faire la guerre. Et si la Chine et les États-Unis s'entendent, à votre avis, qui va payer la facture?
Eh bien, donc vous allez me répondre, l'Europe.
Oui, ça s'appelle un effet de bord, un dommage collatéral.
si vous préférez, si Pékin et Washington s'entendent. Ils vont s'entendre sur quoi en fait? Probablement sur deux choses. La première, c'est une hausse des importations chinoises de produits américains, des biens ou des services. Pas besoin d'être fort en maths pour saisir, vaste communicant, la Chine réduira d'autant ses importations venant d'ailleurs, du Japon, d'Europe. Et ça sera particulièrement vrai pour les services, vu que sur ce terrain, l'Europe est assez désorganisée. Donc nous perdrons des marchés. Deuxième axe d'entente possible entre Washington et Pékin, le refus du libre-échange pour lui préférer de l'entente bilatérale. Conséquence en chaîne, dénonciation possible de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Et l'OMC, c'est devenu l'alpha et l'oméga d'une Union européenne qui ne jure que par le libre-échange. Donc là encore, c'est l'Europe qui se retrouverait le bec dans l'eau.
Mais alors pourtant, le poids économique de l'Europe, Jean-Marc, est énorme, à peu près le même d'ailleurs que celui de la Chine ou des États-Unis, non ?
C'est un poids théorique, c'est-à-dire que c'est une somme de chiffres, rien de plus, mais l'Europe n'a pas de puissance politique, donc elle n'est pas prise au sérieux. Elle avance désunie, hein, une Merkel en fin de course, un Macron empêtré dans les gilets jaunes, des populistes qui ont le vent dans le dos. L'Europe n'a pas de parole claire, donc pas de poids. Quelques exemples de cette désunion. En matière industrielle, Bruxelles semble décider, au nom de la sacro-sainte concurrence, à empêcher la fusion Alstom-Siemens, sans laquelle il sera illusoire de concurrencer les Chinois de CRRC en passe de devenir les maîtres mondiaux du train à grande vitesse. En matière de défense, 6 pays européens ont préféré ces derniers mois choisir le F-35 américain plutôt que les avions européens Eurofighter d'assaut. Tout est dit. Enfin, en matière monétaire, l'Europe reste prise, malgré l'euro, dans la toile du roi dollar qui continue de régir tous les grands accords financiers. Et cette désunion rend très difficile la tâche de la commissaire européenne au commerce, Cecilia Malmström, qui doit rencontrer ce soir à Washington son homologue américain, le Robert Lighthizer. Mais ça va plus loin que la désunion, c'est-à-dire que l'Europe ne se pense pas comme une puissance. Elle hésite toujours à imposer un rapport de force, surtout face à son ancien protecteur, les États-Unis. Donc dans ce monde qui est en train de devenir multipolaire, il n'y a plus que l'Europe pour croire encore aveuglément, presque naïvement dans le libre-échange, et pour ne pas avoir compris que sans puissance politique, on est condamné à devenir petit.
Jean-Marc Fouret, Le Monde à l'envers tous les jours, dans Un jour dans le monde, merci beaucoup.